Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui fait voyager l'économie sur une planète qui, en ce moment, est en plein doute. Le variant Omicron sera-t-il au final moins coûteux en vies humaines par rapport à ses prédécesseurs ? Il perturbe à coup sûr et pour longtemps encore l'activité, les déplacements, le commerce. Comme le disait il y a quelques semaines cette commerçante d'un marché d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Les marchandises sont devenues très chères. Tout le monde se plaint. Nous, la commerçante, on se plaint. La consommation, s'il te plaît.
C'est à cause de quoi, en fait, ça...
Bon, vraiment, je ne sais pas.
La vie, c'est mondial.
C'est mondial.
Eh bien oui, c'est mondial. Problème d'inflation généralisée, de coûts de l'énergie, de pénurie de main-d'œuvre, rupture de chaînes d'approvisionnement, si bien que les grandes institutions internationales s'inquiètent de plus en plus ouvertement pour la reprise économique amorcée l'an dernier, le président de la Banque mondiale mardi dernier.
The big challenge is the people in developing countries and especially the poorer ones are being left further and further behind.
David Malpass parle d'un grand défi pour les populations des pays en développement, particulièrement les plus pauvres, d'une cicatrice permanente laissée par la pandémie, d'un ralentissement général, d'un scénario du pire qui n'épargnerait d'ailleurs pas les grandes puissances. On en saura sans doute encore davantage dans 10 jours quand le Fonds monétaire international publiera ses propres prévisions. En attendant, on est en droit de se demander si ce pessimisme est exagéré, si les États vont pouvoir continuer à emprunter d'immenses sommes d'argent sans plonger les générations futures dans un gouffre de dettes, si une économie prospère est possible sans épuiser nos ressources naturelles. En résumé, si ce brouillard dans lequel nous sommes depuis l'apparition il y a tout juste 2 ans d'un mystérieux virus va bientôt se dissiper. Pour répondre à ces questions, Écho d'ici et Écho d'ailleurs a fait appel à 2 excellentes spécialistes. Elles sont à mes côtés en studio, masquées comme il se doit. Bonjour Jézabel Coupé-Soubéran.
Bonjour Bruno.
Économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous y enseignez l'économie monétaire et financière. Bienvenue également à Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes également économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Nous allons débattre ensemble de toutes ces questions, discussion alimentée par des reportages en Europe, en Afrique. Donnez-moi encore quelques secondes pour un bonjour à quelques-uns des nouveaux abonnés de notre page Facebook RFI Echo. Alors allons-y, Victor Sibendire, étudiant en informatique à Kigali au Rwanda, Merveille Issemoulinda, étudiant à Goma en RDC, Aïssatou Noura, auditrice de Garoua au Cameroun, RFI Echo, un espace pour commenter cette émission, pour poser des questions, pour nous dire aussi les sujets économiques qui vous intéressent et ils ne manquent pas en ce début d'année 2022.
Began with the growing inflation, that report today.
Overall inflation, consumer prices, what we all pay for things, up 7% over
the past year. That's a 7% increase from the same time last year.
Inflation rose 7% over the past year, the highest since 1982.
C'est le chiffre de la semaine, celui qui a marqué les médias américains et la planète économie tout entière, 7%. Le montant de l'inflation sur une seule année aux États-Unis, flambée générale des prix à la consommation, à un rythme jamais vu depuis 40 ans, phénomène mondial. Mais arrêtons-nous d'abord, Sylvie Matelli, sur ce cas américain. Est-ce que le problème a été sous-estimé là-bas ?
Très clairement et certainement pas que là-bas. Rappelez-vous d'où tout ça commence. Après des semaines, voire des mois de confinement en 2020, on sort un petit peu groggy de cette période en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup d'économistes parlent de crise économique, alors même qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait une crise économique. Et puis, contre toute attente, les consommateurs retournent dans les magasins, font la queue même pour acheter, consomment massivement parce que l'économie a été massivement soutenue en Europe, aux États-Unis et ailleurs, donc il y a de l'argent. Et la première réaction, c'est de dire waouh, au fond, on s'en sort bien, au fond, les choses se passent mieux que prévu. Et on a encore parfois ce discours-là, même fin 2021, puisque la croissance est au rendez-vous. Regardez ce qui se passe fin 2021, on s'aperçoit qu'on a récupéré de cette pandémie beaucoup plus vite qu'on ne l'avait estimé au départ. Et puis, on n'a plus pensé, parce que c'est quelque chose qui était lointain pour nous, ces chiffres aux États-Unis. États-Unis ou ailleurs. Ça fait 40 ans qu'on ne les avait pas connus. Donc, on a oublié que quand il y a une croissance qui s'accélère, le risque de surchauffe est là. Et quand on dit surchauffe, on parle d'inflation. Alors, ça commence avec l'énergie et le prix de l'énergie, parce que tout le monde veut consommer du pétrole pour produire. Ça continue avec les problèmes de transport et l'augmentation du prix du fret maritime. Et puis les problématiques s'enchaînent. Jusqu'à très, très récemment, la plupart des économistes tablaient sur une inflation temporaire. On nous expliquait fin 2021, puis fin du printemps, après l'hiver, les choses vont se lisser. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a probablement des facteurs, certes conjoncturels, mais aussi des facteurs plus structurels à cette inflation, et que ça devrait continuer.
Excès de confiance, peut-être, Jezabel Coupé-Soubéran, au moment de cette reprise ?
Excès de confiance... Je sais pas, mais si vous voulez, je pense que effectivement, c'est quelque chose d'inattendu, cette évolution de l'inflation pendant pas mal d'années, voire même plusieurs décennies. La tendance de fond, c'était plutôt une tendance déflationniste, d'accord. Et je crois qu'on s'est pas attendu à ce que cette pandémie se traduise ensuite par une inflation aussi forte. Alors on a voulu y voir au départ quelque chose en effet de transitoire. Là s'installe plutôt l'idée qu'il va y avoir un effet beaucoup plus permanent. Après, l'important, me semble-t-il, c'est d'analyser les facteurs de cette inflation et d'être capable en fait d'avoir la bonne lecture de cette inflation pour y apporter la bonne réponse. Est-ce que cette inflation est directement liée à l'action des banques centrales pour gérer d'abord la crise financière, ensuite la crise sanitaire, au fait qu'elles ont créé énormément de monnaie centrale? Moi, il me semble que non, en fait, parce que certes, les banques centrales ont créé énormément de monnaie centrale pour la prêter aux banques, pour acheter des titres sur les marchés, aux banques, et pas seulement aux banques, hein, d'ailleurs aussi à d'autres acteurs financiers, mais cette monnaie centrale est restée sur les marchés financiers. Elle a eu des effets d'entraînement sur les marchés financiers, sur le marché de l'immobilier, mais au fond, des effets d'entraînement dans l'économie réelle, assez peu. Ça a été assez limité. Ça veut dire que c'est pas allé dans la poche de tous les ménages. Mmh. Et si je déroule un peu le raisonnement, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas créé, me semble-t-il, un excès de demande. Et le problème, il est donc davantage au niveau de l'offre, au niveau de la désorganisation de l'offre
donc,
par
si
la
c'est
pandémie.
Donc si ce n'est pas aux banques centrales d'agir, c'est plutôt au gouvernement d'organiser l'offre.
Effectivement.
Au gouvernement Biden de désengorger les ports américains, par exemple, pour que les ruptures d'approvisionnement soient moins fortes.
Ça pose tout à fait cette question-là, parce que ça signifie que si on a une lecture monétaire, qui à mon sens n'est pas vraiment la bonne, de la lecture de l'inflation, et si la réponse à l'inflation, c'est essentiellement la remontée des taux d'intérêt par la Fed et les autres banques centrales, et la diminution forte des achats d'actifs, je pense qu'en fait, ça n'aura pas d'effet sur cette inflation. Et donc, la réponse, elle doit plutôt venir, en effet, des gouvernements qui doivent soit prendre des mesures de contrôle des prix, soit éventuellement distribuer des chèques énergie, voire même des chèques alimentaires. Après, se pose la question du financement de ces mesures. Oui. Est-ce que les gouvernements vont pouvoir continuer de s'endetter pour financer ces mesures, ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des alternatives ?
On va y revenir plus tard dans l'émission, effectivement. Le mouvement est lancé, hein, ces chèques énergie, par exemple, ce contrôle des prix, ça, on le voit déjà en Europe. Sylvie Matelli, donc, mollo sur la hausse des taux d'intérêt, il faut que les gouvernements agissent. C'est vrai que pour Joe Biden particulièrement, la préoccupation est forte. Hein. Les chefs d'entreprise américains sont extrêmement inquiets en ce moment.
Oui. Alors je reprends votre expression mollo sur les taux d'intérêt, d'autant plus que les États comme les entreprises sont aujourd'hui très endettés déjà structurellement avant la pandémie de Covid, mais encore plus depuis cette pandémie. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément rentrer dans l'équation, en tout cas, souhaitons que ça participe aussi de l'équation de la politique monétaire des grands pays, c'est que au-delà de l'arbitrage inflation-croissance, les banques centrales vont devoir se questionner sur le niveau d'endettement. Alors, elles vont très certainement se questionner sur le niveau d'endettement des pays pour lesquels elles décident d'une politique monétaire, mais il faudra aussi se questionner sur la situation mondiale, parce que l'augmentation des taux d'intérêt pèserait sur les dettes d'un certain nombre de pays qui n'auraient pas pour le coup la maîtrise de leur politique monétaire ou qui n'auraient pas les moyens de réagir à cela. Et ça aurait des conséquences désastreuses. On le voit déjà dans un certain nombre de pays. On a vu l'augmentation du prix du gaz au Kazakhstan. Il n'est pas encore question des politiques monétaires, mais on a nombre de pays qui sont déstabilisés aujourd'hui par cette situation économique, avec une déstabilisation qui pèse sur le politique, qui pèse sur le social et sur la géopolitique, bien évidemment.
Pour faire un peu de pédagogie, Jezabel Coupet-Soubeyran, les taux d'intérêt, qui est l'outil classique, hein, via les taux directeurs des banques centrales, le problème, c'est que si on les augmente trop vite, on risque de faire reculer la consommation et donc de poser des problèmes économiques plus globaux, y compris en termes d'emploi.
Alors, les banques centrales, pendant un certain nombre d'années, là, n'ont plus du tout pu utiliser l'instrument taux d'intérêt parce que précisément leur taux d'intérêt était au plancher et donc elles sont passées par d'autres instruments, d'autres mesures, ce qu'on a appelé des mesures non conventionnelles. Elles ont acheté énormément de titres, d'accord, sur les marchés. Là, la question, c'est est-ce que elles vont reprendre cet instrument du taux d'intérêt et quels vont être les effets de cela? Quand les banques centrales vont remonter leur taux d'intérêt, si elles décident de le faire, ça aura sans doute pas énormément d'effets sur l'inflation, mais en revanche, ça va avoir énormément d'effets financiers. Le risque, si elles procèdent à une remontée trop rapide des taux d'intérêt, c'est qu'elles ne parviennent pas à leur objectif qui est de remédier à cette inflation et qu'elles fassent exploser les bulles de prix d'actifs qu'elles ont largement contribué à former par leur politique passée. Donc il me semble que le problème aujourd'hui auquel on est confronté est celui-ci, et cette remontée de taux d'intérêt, elle risque aussi, Sylvie l'a dit, d'être dramatique pour certains pays largement endettés, et notamment pour ceux qui sont endettés en dollars. Si on parle de la remontée des taux d'intérêt de la Fed, il y a un certain nombre de pays émergents ou de grands émergents ou de pays africains aussi qui sont endettés en dollars. Ça risque de leur faire très mal. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'une situation de taux bas, c'est une bonne situation qu'il faut à tout prix maintenir. Ça veut dire en fait qu'on est piégé dans cette situation de taux bas qui a nourri à l'excès la dette partout, qui pour autant n'a pas franchement amélioré le sort des économies réelles. Et là, si les taux remontent, ça risque d'avoir des effets très, très défavorables.
Jezabel Coupet-Soubeyran évoquait le risque d'une crise financière. Sylvie Matelli, vous êtes d'accord avec ça ?
Et tout à fait. Et pour compléter ce que disait Jezabel, au-delà du risque d'une crise financière et des risques financiers, encore une fois, il y a des enjeux géopolitiques majeurs. Regardez par qui sont détenues aujourd'hui les dettes des pays émergents ou des pays en développement. Pendant très longtemps, les pays exportateurs de pétrole, et par le recyclage des pétrodollars, et c'est encore le cas, ils détiennent encore beaucoup d'actifs dans ces pays émergents et pays du Sud, mais aussi, beaucoup plus récemment, la Chine. Donc on s'aperçoit qu'on entre dans une situation de fort risque financier avec une probable crise et des crises de la dette dans un certain nombre de pays, des crises de la dette qui seront très certainement instrumentalisées par de grands pays dans un contexte de rivalité Chine-États-Unis que je ne vous réexplique pas puisque tout le monde aujourd'hui a conscience de ça.
Vous n'êtes pas beaucoup plus optimiste que le patron de la Banque mondiale. On va rester encore quelques minutes sur les pays riches, entre guillemets, et ce problème de croissance au niveau mondial. Est-ce que la reprise est menacée? Écoutons quelques mots de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, la semaine dernière.
Évidemment qu'il y aura des difficultés au mois de janvier, mais je suis convaincu que dès que la vague Omicron sera passée, nous retrouverons une croissance forte, dynamique et solide. Et donc, je maintiens mon chiffre de croissance à 4% pour 2022.
Jezabel Coupet-Soubeyran, la croissance en France sera comme prévu de 4%, comme le dit le ministre de l'économie, ou est-ce que c'est une déclaration volontairement optimiste ?
Deux remarques. Je pense que c'est une déclaration, en effet, volontairement optimiste pour essayer de jouer sur les anticipations. Sans doute, c'est un peu la méthode.
De ne pas décourager ses concitoyens.
Voilà, c'est un peu la méthode Coué. L'autre remarque, c'est est-ce que notre objectif, est-ce que l'objectif de toutes les économies du monde devrait être de revenir à la situation d'avant crise? Il me semble que la réponse est non, clairement non. C'est-à-dire que on a besoin de réaliser des transformations profondes. pour remédier à des maux profonds dans nos économies, pour remédier à la fracture sociale, pour lutter contre la crise écologique. Est-ce que on lutte contre cela en essayant de se convaincre qu'on va revenir à une situation de croissance forte en ne réfléchissant pas finalement au mode de croissance, au système économique que l'on a envie de transformer, de mettre en place? Il me semble qu'on n'est pas sur le bon chemin et la situation actuelle, la zone de turbulence dans laquelle on entre, l'incertitude majeure sur les variables qu'on a indiquées, va rendre en fait extrêmement difficile la transition écologique. Une transition écologique à réaliser dans un contexte d'inflation très appauvrissante pour les plus pauvres, dans un contexte où les taux d'intérêt remonte, ça va être compliqué. Comment les États vont-ils réaliser les investissements dont on a besoin si les taux d'intérêt augmentent, si la charge de leur dette, de ce fait, remonte beaucoup? Ça va être compliqué.
Ce dogme de la croissance, Sylvie Matelli, si souvent mis en avant aussi en Chine, la Chine qui est dans sa stratégie de zéro Covid, ça a des conséquences aussi pour l'économie de la deuxième puissance mondiale, voire de la première ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, comme le dit Jezabel, on est encore sur cette croissance comme la solution à tout. Et on sait le niveau de croissance qu'il faudrait atteindre pour régler tous les défis qui nous sont posés post-Covid. Donc ça, c'est assez décevant. Dans un contexte qui plus est, vous venez de le signaler, où la stratégie zéro Covid de la Chine, dans une situation pandémique qui dure, et dont on ne sait pas aujourd'hui si elle va cesser à un moment donné, continuera à peser et continuera à générer probablement des tensions sur les prix dans un certain nombre de secteurs. Donc très clairement, oui, c'est vrai que ce choix chinois du zéro Covid questionne aujourd'hui, au-delà d'un choix sanitaire en fait, questionne aussi toute notre économie et la suite de cette pandémie et des conséquences économiques de cette pandémie.
Et parmi les conséquences de ce zéro Covid chinois, il y a la quasi-interdiction des voyages au niveau mondial parmi les secteurs qui paient les pots cassés, le tourisme en Europe. On va aller au Royaume-Uni, un pays toujours isolé. Un reportage à Londres pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de notre correspondante Emeline Vin.
Elle se dresse face au mythique Tower Bridge bleu et blanc. La Tour de Londres, abri des joyaux de la couronne, fait partie des sites touristiques les plus visités de la capitale britannique. En plein mois de janvier, l'esplanade, qui grouille de touristes étrangers, d'habitude n'est plus traversée que par des hommes d'affaires.
2021 a été une année difficile à nouveau.
Dan Wolf, directeur commercial des Palaces Royaux Historiques.
In a typical year, we would expect 70% of all of our visitors.
En temps normal, 70% de nos visiteurs viennent de l'étranger. En 2021, notre fréquentation a été de 35% par rapport à 2019.
Un tiers du personnel a dû être renvoyé pour des raisons de trésorerie. Heureusement pour la Tour de Londres, l'hiver est une saison très calme et...
If Omicron was going to hit, actually, this is the best time of year for it to...
Si Omicron devait frapper, c'était bien le meilleur moment, parce que nous espérons qu'au printemps et au début de la saison pleine, son impact se sera érodé.
We're hopeful that the impact of Omicron will have...
Mais le variant a tout de même fait souffrir un secteur ultra dépendant des touristes étrangers, en particulier l'hôtellerie-restauration et les transports. Patricia Yates dirige l'organe de promotion de la destination Grande-Bretagne, Visit Britain.
Avant Omicron, nous prévoyons une croissance de 19-20 milliards de livres sterling pour 2022, déjà bien en deçà des 29 milliards de livres de 2019. Maintenant, ça paraît très optimiste. Rien que le mois dernier, nous avons perdu 1 milliard 250 millions de livres en réservation pour la Grande-Bretagne.
Heureusement, le pays pourra tout de même compter sur de grands événements en 2022 pour se renflouer. Le jubilé de platine d'Elisabeth II en juin, les Jeux du Commonwealth fin juillet. Toutefois, le secteur fait face à un autre défi, selon le Conseil mondial du tourisme et du voyage, le recrutement. Le WTTC, qui vient de publier un rapport à ce sujet, estime qu'il manque 15 000 candidats. Sa présidente, Julia Simpson.
The challenge now facing our sector are labour shortages. Le secteur doit maintenant faire face à une pénurie de personnel. Certains salariés ont décidé de quitter le domaine du tourisme pour quelque chose de plus sécurisant pour leur avenir. Nous devons vraiment travailler sur notre attractivité parce que c'est un milieu fantastique.
Cette lobbyiste pour le secteur appelle le gouvernement à renoncer aux fermetures de frontières, dont elle rappelle que l'Organisation mondiale de la santé les a jugées peu efficaces pour lutter contre la propagation du virus. Emeline Vent, Londres. RFI.
Le tourisme, comme l'hôtellerie, restauration, des secteurs qui ont manifestement besoin d'être aidés. Reste que les programmes massifs du printemps 2020, Sylvie Matelli, ça paraît quand même bien loin.
Alors ça paraît bien loin, mais ça n'a pas été totalement arrêté. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont encore soutenus en France, en Europe et dans les grandes économies avancées. Je crois que ce qu'on peut retenir de cette période de pandémie, c'est qu'il y a trois types de scénarios, trois types de secteurs en fait dans l'économie. Il y a ceux qui ont été touchés par le confinement. Le fait qu'on enferme des populations et qui ne pouvaient pas sortir, c'est le secteur du sport et des loisirs, c'est les petits commerces, c'est tous ces secteurs qui ont directement subi le fait que le consommateur, les clients ne pouvaient pas directement aller faire leurs achats. Il y a des secteurs qui, au contraire, ont profité de cette situation. On a parlé de toutes les entreprises du numérique avec la mise en place du télétravail, les commandes sur Internet et autres parce qu'on était coincés chez nous. Mais il y a aussi, dans les secteurs qui ont profité, des secteurs comme le secteur de la santé, les pharmacies, par exemple, avec tous les tests et tout ce qu'on a mis en place. Et puis, il y a des secteurs qui ont subi, certes, le confinement. C'est le cas du tourisme, mais dont on se rend compte que peut-être ils ne repartiront pas comme avant, parce qu'il y a aussi eu dans cette période de pandémie une prise de conscience d'un certain nombre de choses. On en a parlé tout à l'heure avec Jezabel, c'est le changement climatique et l'accélération du changement climatique. Il n'a pas accéléré pendant la pandémie, bien au contraire. Quand on était confinés, on a plutôt baissé nos émissions. Tout à fait, les émissions sont reparties complètement. Mais on s'est quand même questionné, et il y avait des mouvements qui étaient déjà en cours avant la pandémie, qui se sont renforcés. Les gens qui ne souhaitaient plus prendre l'avion, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avant la pandémie, mais aujourd'hui, qui est de plus en plus flagrant, qui est de plus en plus massif. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que, véritablement, on va passer dans un monde d'après, si vous me permettez l'expression qui a été souvent employée, on va passer dans un monde d'après, on va vivre différemment. Et bien, quand on passe dans un monde d'après, qu'on vit différemment, il y a des activités qui deviennent obsolètes et qui sont remplacées par d'autres activités.
Donc il ne faut pas aider tout le monde.
Il ne faut pas aider tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une période de transition, très clairement, pour un certain nombre de secteurs d'activité, et qu'il va falloir accompagner cette transition, parce que sinon, c'est des crises sociales et toutes les conséquences de ce type de situation.
Sauf que tout ça, ça a un coût, Jezabel Coupet-Soubéran, financer la transition, financer aussi, effectivement, certains secteurs qui en ont encore besoin, les plans d'aide, les plans de relance. Est-ce que les États, après tout ce qu'ils ont fait depuis deux ans, est-ce qu'ils en ont encore les moyens budgétaires ?
Si on ne change rien au mode de financement des États, les États vont rester extrêmement dépendants des marchés et des banques centrales pour se financer. Est-ce que les États vont pouvoir poursuivre leur endettement sans problème sur les marchés ? Certains, les États-Unis par exemple, n'auront peut-être pas de difficultés à le faire. Pour les pays européens, si les taux d'intérêt remontent, ça va être plus compliqué. En l'absence d'union budgétaire dans la zone euro, ça va être compliqué aussi pour d'autres pays du monde, pour des pays émergents, pour des pays pauvres. Je pense qu'on est quand même, si vous voulez, on entre dans une phase où l'on doit s'interroger sur la façon dont les États se financent aujourd'hui.
Donc il faut changer les règles budgétaires, par exemple en Europe, ou alors changer les modes de financement, trouver d'autres modes de financement ?
Alors, changer les règles budgétaires, c'est une nécessité pour que les États soient un peu plus en capacité de réaliser les dépenses publiques qu'ils ont besoin de réaliser, mais je crois que au-delà de ça, on devrait se demander si il n'est pas temps de rétablir un vrai cordon financier entre banque centrale et État. C'est rigoureusement interdit aujourd'hui dans quasiment tous les pays du monde, encore plus en Europe, où le traité interdit la Banque centrale européenne d'apporter une assistance financière directe aux États. C'est un tout petit peu contourné, mais tout en restant dans les limites du traité, avec les achats de titres de dette publique par les banques centrales. Mais ces achats de titres de dette publique par les banques centrales ont des effets potentiellement très déstabilisant sur les marchés financiers. Donc il faut vraiment, oui, réfléchir à des solutions alternatives. Avec quelques collègues économistes, et on avait été rejoints par une bonne centaine d'économistes européens, eh bien, on avait proposé en 2020 une opération d'annulation conditionnelle de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, plus exactement par, par l'eurosystème. Ça, c'est une proposition d'opération ponctuelle qui permettrait, en fait, de trouver un peu de marge de manœuvre budgétaire et qui permettrait de réaliser des investissements publics qu'on ne réalisera pas sinon. Mais ça, c'était qu'une proposition d'opération ponctuelle. Moi, il me semble, si vous voulez, que les banques centrales, aujourd'hui, devraient véritablement être mises au service du financement des États pour qu'on soit en mesure de faire la transition écologique, de mettre en capacité nos systèmes de santé. On voit bien quand même quel est le problème à ce niveau-là. Qu'on soit également en mesure de renforcer considérablement l'éducation, bien entendu. Éventuellement qu'on réfléchisse aussi à des solutions de revenus de base dans nos sociétés. Bon, on est dans des phases où on doit considérer des solutions alternative.
Du passé, faisons table rase. Sylvie Matelli, j'exagère un peu. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution.
Une révolution, je ne sais pas, parce que les révolutions sont souvent violentes et elles sont faites pas forcément au service des personnes qui en auraient le plus besoin.
Bon, mais il faut changer des choses.
En tout cas, il faut changer les choses. Je crois que ce qui s'est passé avec le plan de relance européen est déjà un bon début. Mmh. On a déjà fait sauter un certain nombre de verrous. Alors, est-ce qu'on ira plus loin ou pas ? L'avenir nous le dira. C'est très insuffisant, mais je crois qu'on va déjà dans la bonne direction et que ce qui s'est passé est quand même assez révolutionnaire, si vous me permettez l'expression, au vu de ce qu'était la position de l'Allemagne avant la pandémie et même au tout début de la pandémie.
Mais c'était un plan d'urgence. Les règles budgétaires à plus long terme.
Tout à fait. C'était un plan d'urgence, oui, mais le fait de mutualiser, en fait, un certain nombre de dépenses, voire une dette, c'est très intéressant parce que là, on sort de cette contrainte du traité qui interdit la Banque centrale de financer la dette des États. On est dans une zone un petit peu qui n'a pas été envisagée. Après, pour compléter ce que disait Jézabel à l'instant, au-delà des banques centrales, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des banques centrales qui ont les moyens, en fait, de leurs ambitions. Je crois qu'il y a aussi une refonte à réfléchir sur les organisations internationales, sur ce système de Bretton Woods qu'on a mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui patine à se réformer et qui patinera encore certainement quelques décennies, parce que là où les banques centrales ne seront pas en capacité de venir aider et financer et investir dans les défis qui nous sont posés, vous avez cité l'éducation, la santé, le climat, ce sont des défis systémiques, ce sont des défis globaux. À un moment donné, si une partie de la population n'a pas accès à l'éducation, ne lutte pas contre le changement climatique et n'investit pas dans la transition énergétique ou ne forme pas sa population, eh bien, les problèmes que nous connaissons, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, perdureront, voire s'amplifieront dans la situation. Donc, certes, il y a à repenser l'action des banques centrales, à repenser le financement des États très clairement, mais aussi à revoir, à réviser, peut-être à révolutionner pour le coup, l'action des organisations internationales.
Les économistes Jézabel Coupet-Soubeyran et Sylvie Matelli sont les invités d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, pour analyser la situation économique mondiale. Faut-il croire au scénario du pire ? Nous continuons le débat pour encore quelques minutes. Et dans ce tour du monde, on va s'intéresser maintenant aux pays moins développés, pour lesquels les craintes sont encore plus grandes peut-être. D'abord, les pays dits émergents. L'Inde, le Brésil par exemple, durement frappé par l'épidémie, mais aussi l'Afrique du Sud, où là, on a un vrai problème de chômage. Un tiers, voire la moitié des actifs n'ont pas d'emploi. Alors comme dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, on voit les choses plutôt d'un point de vue positif, on va aller à la rencontre des associations qui tentent d'agir en proposant des formations, en mettant les chômeurs en relation avec des employeurs. C'est le cas de l'association SayPro, qui existe depuis 2005, dans un township au nord de Johannesburg. Un reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, un reportage de notre correspondant Romain Chanson.
Les résultats des examens de fin d'année, l'équivalent du bac, seront dévoilés à la fin du mois. Et pour certains, ce jour sera synonyme de fin des études et d'une première recherche d'emploi. Ils viendront alors se renseigner ici, dans les locaux de SayPro, et feront face à l'accueil Alina.
Quand ils arrivent ici, on les rassure et on les aide comme on peut. Je pense qu'ils sont angoissés car après les examens, ils peuvent se rendre compte qu'ils n'ont pas assez d'argent pour poursuivre leurs études. Donc SAIPRO, c'est le bon endroit pour eux. Ici, ils trouvent une plateforme pour partager avec d'autres jeunes, continuer à apprendre et à avoir des cours.
Cabello fait partie des inscrits. C'est un jeune homme timide de 18 ans, originaire du township.
I've been making a research on computer science. That's the thing I'm interested in, yes.
J'ai fait des recherches sur les sciences de l'informatique et c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est pas facile de trouver du travail. J'étais pas bon à l'école, c'est pour ça que je suis venu ici, pour trouver de l'aide et suivre mes cours en ligne.
L'association SAIPRO offre une grande variété de cours, en présentiel et en ligne. Ce sont les cours sur l'entrepreneuriat qui intéressent Romozzo, 21 ans. D'ailleurs, il se promène avec un livre intitulé « L'Afrique est ouverte au business ». Romozzo lit aussi pour passer le temps. Il supporte mal sa situation de demandeur d'emploi.
On est désespéré. C'est la pire expérience de ma vie. C'est très compliqué, encore plus à cause du Covid. Les gens ont perdu leur travail. Tout le monde est à la chasse au boulot pour pouvoir au moins mettre de la nourriture sur la table.
Face à ce désespoir, une association comme SAIPRO continue de résister face à la vague du chômage. Puisque les entreprises ne peuvent plus embaucher, ouvrez votre commerce, défend Clifford Lerodi, le directeur de l'association.
Avant le Covid, les choses se passaient bien. On arrivait à trouver un emploi à 75-80% des jeunes. Mais depuis le Covid, ça n'arrive plus. Les chiffres ont beaucoup baissé. Maintenant, on prépare davantage les jeunes à devenir entrepreneurs parce qu'en ce moment, aucune entreprise ne recrute.
Avant de diriger SAIPRO, Clifford Lerodi était l'un de ses bénéficiaires. Il estime que son parcours est une success story. Aujourd'hui, il gère deux petites affaires en parallèle et essaie de montrer la voie. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Le chômage de masse, un phénomène, Sylvie Matelli, qui concerne surtout les pays moins développés. Dans les pays riches, c'est plutôt le contraire. On cherche des candidats.
Alors, on a un paradoxe, en fait, y compris dans les pays riches. Et tout est lié à l'éducation et aux investissements qu'on est capable de consentir ou qu'on sera capable de consentir dans l'éducation. C'est-à-dire, vous avez effectivement pénurie de gens très qualifiés, de gens capables de travailler sur des métiers à forte valeur ajoutée. Alors, c'est le cas dans nos pays, puisque par définition, c'est essentiellement là que sont ces métiers très qualifiés. Mais à l'inverse, et dans nos pays aussi, on a un chômage, et un chômage des jeunes, et un chômage durable pour des métiers moins qualifiés en réalité. Et c'est particulièrement criant, bien évidemment, dans les pays en développement, puisque les personnes ont moins accès à l'éducation et à la formation que ça n'est le cas dans les pays les plus développés. Donc attention, il ne faut pas se laisser aveugler par cette impression de pénurie. Le chômage existe encore. Mmh. Il creuse en plus de ce fait, du fait de la situation, ça creuse encore plus les inégalités entre les pays, bien évidemment, mais au sein des pays, entre ceux qui ont eu accès à l'éducation, à la formation et qui ont des emplois très qualifiés, qui gagnent bien leur vie, et d'autant mieux aujourd'hui que finalement il y a pénurie et qu'ils peuvent négocier à la hausse leur rémunération, et puis ceux qui, à l'inverse, n'ont pas accès à ces choses.
On nous dit quand même qu'en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on manque par exemple de chauffeurs routiers.
Oui, c'est vrai. Dans certains secteurs, effectivement, il y a aussi une désaffection. C'est vrai que c'est coupé à ça.
Même s'il faut faire des formations assez poussées pour devenir chauffeur routier.
Et que ce sont des métiers très spécifiques et un certain nombre de métiers qui sont peut-être pas tant chauffeur routier, mais il y a un certain nombre de métiers qui sont techniques également dans les entreprises, dans les usines en particulier, et qui nécessitent une formation, des formations qui ont été peu choisies par des jeunes parce que on a considéré que c'était pas des métiers intéressants, qu'il valait mieux aller sur les métiers du service. Donc ça, c'est vrai, il y a ce phénomène également qui complète l'analyse faite.
Jézabel Coupé-Soubéran, puisqu'on a commencé à parler des pays émergents avec l'Afrique du Sud, l'une des inquiétudes pour ces pays, c'est une remontée brutale des taux d'intérêt dont on a parlé tout à l'heure. Le coût de l'emprunt serait augmenté aussi, alors que ces pays ont un endettement record. C'est le cas pour l'Afrique du Sud, c'est le cas aussi pour pas mal de pays en Afrique, vis-à-vis de la Chine notamment.
Avec la gestion de crise financière, avec la gestion de crise sanitaire, la dette mondiale a énormément augmenté. Alors, la dette a surtout augmenté dans les pays riches, mais elle a augmenté aussi dans les pays qui le sont moins, dans les pays émergents. C'est la dette publique qui a surtout augmenté dans les deux cas, mais c'est aussi la dette privée. Et en effet, pour les pays émergents, dont certains sont endettés en dollars, la remontée du taux d'intérêt américain et potentiellement la remontée du dollar qui ira de pair sont des facteurs qui risquent d'être extrêmement appauvrissants. Donc ces pays sont suspendus aux effets de la politique monétaire américaine.
Donc et là aussi, il faut changer de paradigme dans cette relation entre les pays pauvres et les pays riches.
Ben en tout cas, là, si vous voulez, il y a une situation de dépendance, de quasi-soumission qui est intenable pour eux. C'est-à-dire que les problèmes de formation, d'éducation qui ont été évoqués dans le reportage que vous passiez nécessitent que les États soient en capacité de dépenser. Est-ce que des États qui sont obligés de s'endetter dans une monnaie étrangère sont vraiment maîtres de leurs dépenses publiques? La réponse, bien sûr, est non.
Avec des cas dramatiques, on peut citer le Liban, l'Argentine, par exemple, une inflation, plus de 50% d'inflation en 2021. On a parlé aussi du Soudan, beaucoup dans l'actualité.
Oui, pour les populations, c'est quelque chose d'infernal, bien sûr.
Sylvie Matelli, cette relation entre surtout pays riches et pays pauvres?
Oui, tout à fait. Au-delà de la réaction, de la relation, il y a une situation qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la question des prix agricoles, en fait. Mmh. C'est que l'inflation et les pénuries touchent aujourd'hui de manière très particulière l'agriculture et la production agricole, avec des pays, alors parmi les pays en développement émergent, vous en avez un certain nombre qui sont exportateurs, mais qui sont exportateurs d'une matière première, qui n'ont pas une suffisante diversité de leurs exportations pour être très forts dans le domaine du commerce extérieur. Mais vous avez aussi une dépendance très forte vis-à-vis des approvisionnements étrangers, des importations de ces produits-là. Et donc, c'est vrai que ça vient renforcer la difficulté, ça vient renforcer le problème et les risques très clairement de crise alimentaire ou autre de ces populations. Donc ça, c'est un fait. Sur la relation entre le Nord et le Sud, vous avez parlé de repenser, en fait, cette relation, certes, mais pourquoi les pays du Sud sont-ils aussi sensibles aux politiques monétaires de la Réserve fédérale, peut-être dans une moindre mesure, mais malgré tout d'autres pays, dont la Banque centrale européenne et d'autres pays qui leur prêtent? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le système financier et les grandes banques sont des banques pays du Nord, si vous me permettez l'expression. Il n'y a pas eu de développement d'un système financier dans ces pays du Sud, sauf exception. On pense à la Chine, par exemple, et à un certain nombre de pays émergents asiatiques. C'est problématique parce que, qu'on le veuille ou non, ces pays restent et resteront, et quoi qu'on fasse à ce stade, extrêmement dépendants de politiques monétaires sur lesquelles ils n'ont absolument pas la main.
Et puis il y a un cas intéressant, Sylvie Matelli, celui de la Turquie. Là aussi une inflation très forte, un grave problème monétaire et un président, Recep Tayyip Erdogan, qui dit « je mise tout sur la croissance, on n'augmente pas les taux d'intérêt ».
Alors, ce ne serait pas la première fois que le président Erdogan prend les mauvaises décisions économiques. Et la situation, faut se rappeler ce qu'était la Turquie. La Turquie, il y a une dizaine d'années, c'était le pays émergent le plus proche de l'Europe, en fait, avec un pays qui connaissait des croissances extrêmement fortes, proches, voire certaines années ayant dépassé les 10%. Et c'est un pays qui, depuis 4-5 ans, bien même avant la pandémie, a profondément souffert de l'instabilité créée par ce président et finalement une instabilité qui a déstabilisé l'économie. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le président prend des décisions qui sont plus politiques qu'économiques, c'est-à-dire il souhaite être réélu et on sait très bien que le facteur économique va être la clé des prochaines élections dans ce pays. Et donc partant de là, bien, il essaye de gérer cette inflation à deux chiffres comme il le peut. Très clairement, je ne suis pas sûre qu'il arrive à résoudre quoi que ce soit. Il permet aux citoyens turcs de vivre et de survivre dans la situation. Moi, je trouve que, toute proportion gardée, on est en Turquie dans un scénario qui rappelle, somme toute, le scénario libanais. Encore une fois, toute proportion gardée, c'est-à-dire on est dans une dérive politique qui va avoir des conséquences économiques désastreuses, en souhaitant qu'on ne rentre jamais dans le scénario libanais, bien évidemment, pour les populations et pour la Turquie.
Le plus extrême en ce moment, Jezabel Coupé-Soubéran.
Oui, Oui, pas sûr que la décision du président turc soit prise pour de bonnes raisons, la décision de pas remonter les taux d'intérêt. Cela étant, il n'est pas certain du tout qu'en remontant les taux d'intérêt, les autres banques centrales parviennent véritablement à agir sur les tensions inflationnistes actuelles et parviennent à faire redescendre l'inflation. Encore une fois, si l'inflation qu'on observe n'est pas une inflation monétaire, eh bien, les banques centrales n'auront tout simplement pas de prise sur l'inflation.
Et donc, il ne faut pas avoir une vue générale et dire il faut à tout prix, dans tous les pays,
remonter les taux d'intérêt.
Adopter les mêmes recettes.
Non, pas forcément. Et puis surtout, si vous voulez, les recettes traditionnelles, les recettes anciennes, à savoir, on monte le taux d'intérêt quand il y a de l'inflation, on le baisse quand elle est insuffisante, il est franchement pas sûr que ça fonctionne toujours, parce que il y a un aspect fondamental à prendre en considération, c'est que les économies sont des économies très financiarisées. Et toute l'action des banques centrales aujourd'hui, eh bien, est surtout tournée vers les marchés financiers, a beaucoup plus d'effets sur les marchés financiers, fait circuler la monnaie sur les marchés financiers plus que dans l'économie. Donc, pas sûr que le président turc ait tout cela en tête, mais est-ce que le fait de ne pas vouloir remonter trop vite les taux d'intérêt est, pour le coup, une erreur ? Peut-être pas.
En fait. Justement, ces marchés financiers ne semble guère se soucier, en tout cas si on voit les chiffres, ne semble guère se soucier de ces risques pour l'économie mondiale. Jezabel Coupet-Soubéran, est-ce qu'ils sont déconnectés de la réalité économique du monde ?
Oui, je crois qu'il y a une vraie déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle depuis plusieurs décennies, depuis qu'on a laissé la sphère financière enfler en considérant un peu partout que laisser se développer les banques, les marchés financiers, ce serait un formidable moteur pour la croissance. Et la déconnexion est allée croissant avec la gestion de crise. Les marchés financiers et le secteur bancaire auraient pu, si vous voulez, se replier, se contracter un peu après la crise financière. Au fond, il n'en a rien été parce que les garde-fous qui ont été installés ont été relativement faibles. Et ensuite, avec la gestion de crise sanitaire, eh bien, en fait, l'activité des banques et des marchés financiers a décuplé. Ce sont les principaux gagnants de ces politiques de gestion de crise.
Il y a un autre secteur qui se porte pas trop mal, c'est l'immobilier, que l'on dit aussi parfois déconnecté de la réalité, et une menace qui semble ressurgir, celle d'une bulle immobilière, à la manière de celle qui avait éclaté en 2008. On va voir ça avec Patricia Lecomte du service économie de RFI. Bonjour Patricia.
Bonjour Bruno et bonjour à tous.
Patricia, vous revenez sur le cas d'Evergrande, ce géant de l'immobilier chinois qui a frôlé la faillite et qui aurait pu faire vaciller l'économie du pays.
Eh bien Bruno, si le géant de l'immobilier en est arrivé là, c'est parce que ce secteur attire depuis 20 ans énormément d'investisseurs chinois et bien au-delà de la demande naturelle de logements. Peu confiants dans les marchés financiers nationaux, les Chinois préfèrent placer leur argent dans l'achat d'appartements qui souvent restent vides. Un choix bien évidemment qui contribue à alimenter la bulle. Alors face à ce phénomène spéculatif, le pouvoir avait déjà resserré la législation pour obliger les promoteurs les plus fragiles à réduire leur endettement. La priorité pour Pékin est évidente, hein, il faut préserver le secteur de l'immobilier qui représente quand même un quart de son PIB. On comprend bien, Bruno, que c'est un moteur indispensable lorsque la reprise économique post-Covid viendra.
Aux États-Unis, le contexte est certes différent, mais là aussi, les prix de l'immobilier flambent.
Oui, en effet, ça flambe. Jamais les prix n'ont augmenté aussi rapidement. Sous l'effet de la rareté des biens à la vente, les prix de l'immobilier ont explosé. Tenez-vous bien, près de 24% en un an. Il s'agit d'un niveau record et cette hausse devrait se poursuivre encore en 2022. Alors, en raison de la pandémie, de nombreux Américains ont l'an dernier reporté leurs projets immobiliers, ce qui a bien évidemment, Bruno, figé le marché. Actuellement, suite à l'annonce de la Fed, les prix ont bondi de 10% car la Banque centrale américaine a annoncé qu'elle pourrait mettre un terme à sa politique accommodante, ce qui marquerait la fin des taux d'intérêt bas. On observe également une flambée des prix au Canada, où suite au confinement, les habitants là-bas aussi quittent leurs appartements au profit de maisons en zone moins urbanisée. Tenez-vous bien, Bruno, à Montréal, le prix d'achat moyen d'une maison a augmenté de 28% en un an.
ans. C'est à peu près la même chose en Europe, Patricia ?
Eh bien là aussi, le marché est en surchauffe dans quasiment toute la zone euro. Alors c'est en Allemagne que la hausse est la plus importante. En un an, le prix de l'immobilier a bondi de 10%. Comme partout ailleurs, le télétravail est pour beaucoup responsable de cette envolée. Là aussi, les plus aisés se sont rués sur la province pour acheter des résidences secondaires, parfois tout en gardant leurs appartements dans les grandes villes. D'autres, moins argentés, ont fait le choix de déménager pour s'installer au vert ou au bord de la mer. À cela s'ajoute la baisse de produits neufs à la vente. Pourquoi ? Eh bien, en raison des confinements et des problèmes d'approvisionnement, le secteur de la construction a été mis à l'arrêt. Même scénario en France, où les prix se sont envolés sur quasiment tout le littoral, au point de rendre le marché inaccessible aux locaux, notamment aux jeunes. Le Royaume-Uni n'échappe pas à cette frénésie d'achat immobilier. Seuls l'Espagne et Chypre font exception à la règle.
Merci Patricia. Sylvie Matelli, cette bulle immobilière dont on parle parfois, vous y croyez ?
Oui, très clairement, et je crois d'autant plus que c'est un risque supplémentaire dans la perspective de crise financière, de possible crise financière que nous avons évoquée. Il ne faut pas oublier que la plupart des crises financières démarrent par l'éclatement d'une bulle et assez régulièrement d'une bulle dans ce secteur de l'immobilier. Mais au-delà de tout ça, c'est toute cette déconnexion en fait du marché des actifs au sens large, et l'immobilier en fait partie, et de l'économie réelle qui questionne, parce que vous étonnez tout à l'heure de ces bourses qui battent des records de semaine en semaine, mais comment ne le ferait-elle pas ? Au fil des crises qui sont qui plus est au départ plutôt des crises financières, au fil des crises, les marchés financiers en sont sortis toujours plus renforcés avec toujours plus de moyens. Pourquoi s'inquiéterait-il aujourd'hui dans une situation qui plus est où vous avez quand même une épargne qui est importante parce que la population au niveau mondial vieillit ? Donc les perspectives, elles sont plutôt bonnes. Si vous êtes un acteur financier, vous vous réjouissez parce que ça fait 30 ans, peut-être plusieurs décennies, on va dire que ça dure, et que visiblement, rien ne change. La vraie question qui se pose aujourd'hui, si on veut vraiment que les choses changent, et je crois que ça se connecte aussi aux défis qui nous sont posés en matière de changement climatique, en matière d'éducation, en matière de santé, c'est comment fait-on aujourd'hui, et ça c'est une question politique, comment fait-on aujourd'hui pour reconnecter ces marchés financiers à l'économie réelle ? Et c'est probablement les défis des années qui viennent. Rappelez-vous, c'est pas nouveau. Il y a quelques années, la Banque Centrale Européenne accordait prêter de l'argent à des taux négatifs à des banques si elle le réinvestissait dans des PME. Ça n'a pas été très probant, mais la démarche était engagée.
Très rapidement, dernière réponse, Isabelle Coupé-Soubéran. Les poches sont profondes, les poches des riches sont profondes. Il y a encore de l'argent, il y a de l'épargne.
Oui, bien sûr qu'il y a de l'épargne, mais il y a de l'épargne pour les plus riches. Et si vous voulez, tout ça est très segmenté. C'est-à-dire que les plus riches ont été enrichis par les politiques de gestion de crise qui ont été menées, en particulier par la politique monétaire, qui a en effet débouché sur la formation de bulles, dans l'immobilier et également sur les marchés de titres. Donc ceux qui détiennent des patrimoines financiers et immobiliers se sont considérablement enrichis. Les plus modestes, eux, n'ont pas vu la couleur de tout cela. Après, si les taux d'intérêt remontent, la hausse des taux d'intérêt va être comme un coup d'aiguille en fait dans ces bulles qui pourraient alors exploser. C'est en cela qu'on est exposé à un risque de crise financière.
Comme en 2008.
Oui, potentiellement comme en 2008. Et est-ce qu'on peut essayer de reconnecter cette finance démesurée à l'économie réelle ? Ben, je crois que la transition écologique donne l'opportunité de le faire. Il faut vouloir le faire, mais si on essaie justement de remettre la finance au service du financement de la transition, si on fait évoluer la politique monétaire des banques centrales vers cela aussi, on a peut-être là l'occasion de rebrancher la finance sur l'économie.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Isabelle Coupé-Soubéran, économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je cite le titre de deux de vos dernières chroniques chez nos confrères de France Culture. Pourquoi faut-il craindre une crise quand tout va bien ? Une autre encore, faut-il vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ? Je vous laisse réfléchir. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Votre dernier ouvrage l'an dernier, Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Merci à notre réalisateur, Guillaume Munier. À la semaine prochaine pour de nouveaux questionnements sur notre monde et son économie. D'ici là, vos commentaires sont les bienvenus sur notre page Facebook RFI Echo ou alors sur Twitter. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Littérature sans